Tov. Alors bonsoir d'abord à toutes et Bemet Kolakavot que vous soyez venus avec la pluie, le vent, bon pas la neige mais bon voilà quoi. Donc Kolakavot et que chaque pas, on dit que chaque pas qu'on fait pour aller à un cours de Torah, c'est on crée des malachim, on crée des anges. Donc Bemet chaque pas et chaque chose que vous avez fait pour venir ici ce soir, Kolakavot et que Zeyamod les Srutrem, que ça soit pour votre mérite. Celles qui sont mariées, Bezrat Hashem pour leur Shalom Bayit. Celles qui ne le sont pas, que Bezrat Hashem, elles vont trouver sauf leur mari. Amen. Ne croyez pas qu'une fois que vous allez trouver votre mari, la lutte va se terminer. Ce sera une autre lutte. Et pour celles qui n'ont pas d'enfants, Bezrat Hashem, qu'elles ont très prochainement, elles nous annoncent des bonnes nouvelles. Et pour la refoua shlema de tous les Cholé Israël, et que Bémet, qu'il n'y ait que des Bessorot pour tout le Ham Israël. Alors, on va parler de Shambayit. Donc, non, parce qu'il y a des jeunes filles dans la salle, Nachon. Ça va?
C'est mes filles.
Ah, c'est tes filles?
Moi, elles sont 18 ans.
Elles sont grandes déjà, d'accord.
Elles sont majeures.
D'accord, ok. Il y a une fois, on va raconter une histoire d'abord, qui va nous aider un peu, qui va nous renforcer à nous toutes. C'était une jeune fille qui avait son passé, comme nous toutes. Ça veut dire que la plupart de nous, on vient de familles comme elles sont. Ça veut dire, il y a des familles, où en fin de compte, c'est un passé qui est lourd, qui est chargé, qui est problématique, des conflits dans la famille. Bref, chacune, elle a son bagage. Et donc, il y a une fois une jeune fille comme ça qui n'est pas mariée et qui cherche à se marier. Et donc, elle décide. Après avoir passé tout ce qu'elle a passé, elle dit, bon, je vais aller voir une chatranite. Tout le monde sait ce que c'est une chatranite? Ouais. Une chatranite, c'est une femme qui connaît plein de gens, des hommes, des femmes, et qui fait la connexion. Alors, elle va voir donc la chatranite, et bien évidemment, elle commence à lui poser quelques questions. Elle lui dit, raconte-moi un peu ta vie. Et l'autre, elle commence à lui raconter sa vie. Au bout d'un moment, la chatranite, elle lui dit t'as un passé, hein. C'est lourd, quoi. T'as un bagage qui est énorme. Ton tic, ça veut dire, c'est en hébreu, on appelle ça une chavila. C'est un tic, c'est un sac, t'as un gros sac. Alors, cette jeune fille, elle avait deux options. C'était soit, comme c'est en général le cas, se morfondre sur son cas, en disant c'est vrai, j'ai vraiment une vie pourrie, et des parents nazes, et des frères, et des sœurs, et des histoires, et il m'est arrivé tellement de choses dans ma vie. Et ça, on sait que c'est pas la bonne attitude, parce que, mais sauf au chef de l'avoir, mal à saute. Ou alors, de positiver. Et bien mettre que c'est ce qu'elle a choisi de faire. Elle lui a dit, tu sais, c'est vrai, j'ai un gros bagage. Elle lui a dit, mais je veux que tu saches une chose. Mon bagage, il est signé. Il est signé par la main d'Hachem. Il n'y a pas une plus belle signature que ça. C'est-à-dire que mon bagage, en réalité, c'est unique. Il a été fait uniquement pour moi. Et quand on écoute cette histoire, on pourrait dire « Sarakol, c'est mon histoire, c'est la vôtre, c'est celle de nous toutes. » Parce qu'on pourrait toutes avoir tendance à dire « Ma vie, c'est trop difficile, j'ai trop d'histoires, j'ai trop de problèmes. » Que je sois une jeune fille, que je sois une femme mariée, la jeune fille Bémet, elle a ces moments où elle est seule, elle a ces moments où elle ne sait pas quoi faire, elle a des crises d'angoisse parce qu'elle voit le temps passer. Elle peut aussi perdre de son bitachon atzmi, ça veut dire de
confiance.
Sa confiance naturelle, comme ça, en elle. Elle perd sa confiance en soi. Elle se dit peut-être je suis pas assez bien, peut-être je suis pas belle, peut-être ceci. Bon, on va dire que c'est les choses que chaque jeune personne peut penser, d'accord ? Elle peut aussi elle peut se dire aussi, mais qu'est-ce que je fais de ma vie ? Parce que c'est vrai que quand on entend, d'accord, souvent dans le cours de Shalom Bayit, qu'est-ce qu'on dit ? Quand tu te maries, c'est là que ça commence, c'est la vraie construction. Alors, la fille, elle espère. Et elle dit, oui, je voudrais construire. Et elle a la sensation véritablement qu'elle ne construit pas. Elle a une sensation qu'elle se dit, mais moi, je ne fais rien de ma vie, en fin de compte. Et tout ça, c'est que du shéker. Pourquoi c'est que du shéker, que du mensonge ? Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a fait ton tic, c'est lui qui a fait ton bagage. C'est lui qui le dessine à chaque instant de ta vie. Et c'est lui qui dit, voilà, maintenant, station 1, station 2, station 3. Et qu'est-ce qui va te permettre de pouvoir justement, d'accord, affronter la station, vivre dans cette station, d'accord, avec, on va dire, toutes les énergies positives qui se doivent. C'est à chaque fois de se rappeler justement que tout ce que tu passes, quelles que soient, d'accord, les périodes et les événements, tout ça, c'est voulu par Akadosh Baruch Hu. Donc, à aucun moment, tu peux te dire, moi, ma vie, elle passe et j'ai rien fait. C'est pas vrai. Endavar kazé. Ça, c'est déjà pour rassurer, on va dire, les jeunes filles qui sont dans ce groupe et même pour toutes les autres jeunes filles qui pourront après entendre ce cours, si Dieu veut. À aucun moment, tu dois te dire, ma vie, c'est-à-dire le package de ma vie, c'est trop lourd à porter. Ça n'existe pas. Ça, c'est ton dimion. C'est quoi le dimion ? C'est ton imagination. Et qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Nachman ? C'est quoi l'imagination ? Les djoukes. Ton imagination, en réalité, c'est le Yetzer Hara. D'accord ? Pourquoi ? Parce que il faut avoir fait un vrai gros boulot sur soi-même, d'accord ? Pour avoir une imagination très positive. D'ailleurs, pour vous dire comme quoi c'est vrai, aujourd'hui, je pense que c'est très à la mode, d'accord, d'aller faire des cours de pensée positive. Les livres qui sont écrits sur la pensée positive, ils cartonnent comme ça n'a jamais... Tout ça, pourquoi ? Pourquoi il y a tellement de ventes ? Pourquoi il y a tellement, d'accord, de personnes qui recherchent tout ça ? C'est parce que Béhémet, aujourd'hui... C'est pas que ça a changé, la vie, elle n'a pas changé. Mais aujourd'hui, Béhémet, qu'on a peut-être cette franchise... D'accord ? Parce qu'on n'a plus le choix, de toute façon, de dire, tu sais quoi, en réalité, je suis une dépressive chronique. Voilà. C'est vrai ou pas ? Je suis dépressive et fille de dépressive chronique. Sans... Hein ?
Alors quoi ?
Rien, c'est ton état.
Et on soigne pas ?
Attends, deux secondes.
Ah,
non, écoute une chose. Tu ne peux te soigner qu'à partir du moment où tu prends conscience de ton état. Si tu veux te la jouer, moi je suis au top et moi je m'éclate et moi je suis super, toute ta vie tu resteras dépressive. Et en plus tu deviens une menteuse. D'accord ? Donc tu vis, ça veut dire, toute ta vie dans le mensonge. Tu vis, c'est le tmenik. Vous vous rappelez les filles de Ranana, on avait parlé de ça. Tu vas développer, d'accord ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est Rebecca qui vous a répété, non ? Qui c'est ? Non, c'est toi qui étais là, Ranana, Rebecca. C'est toi qui es venu. Bon, l'homme est chané.
Non, rigole, c'est l'autre là.
Bon, c'est pas grave.
Perturbé, l'autre.
Qui c'est qui est perturbé ? Je comprends pas.
C'est la dame là.
C'est toi qui es perturbé ?
Non, c'est.
Ah, c'est toi. Mais tu n'étais pas au cours de Ranana, toi ?
Non.
Non, c'est Rebecca qui a répété. Ah, d'accord.
C'est la dernière fois à la maison.
Ah, d'accord.
Et là, c'est le deuxième.
Sinon,
je viens là. De ta vie ?
Quasiment,
ouais. Kol hakavod, là, le maître. Kol hakavod. Tu es gentil. Sachem. Bon, ben, kol hakavod. Bémet, kol hakavod. Donc, tu ne resteras pas une menteuse. Tu ne vivras pas encore dans le tmanik et dans toutes ces choses-là. Il est arrivé le moment, d'accord, de dire donc, voilà, mon état, il est comme ça, d'accord. Ça veut dire que mes pensées, en général, m'attirent vers le bas. C'est comme ça. C'est rare qu'une fille, elle est tout le temps en train de se dire « Je suis au top, tout va bien, je suis super. » Non, le Yetzer Hara. Donc Rabbi Nachman, il te dit, c'est quoi maintenant le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, il s'appelle Dimyon. Dimyon, c'est l'imagination. D'accord? Rabbi Nachman, souvent, il raconte comme ça. Il y a une histoire qui raconte qu'il y a un homme, il rentre chez lui, il dit, bon, je vais aller me reposer, j'ai un petit moment. C'est un homme, hein, c'est pas une femme. Parce que la femme, elle a du mal à faire ça. Bon, ça fait partie de la pathologie de la femme. Qu'est-ce que tu as, Sacha? Tu n'as pas pu? Donc, un homme rentre chez lui, il se dit, je vais faire une petite sieste. Et il se met tranquille dans son lit. Et Rabbeinu, il nous raconte comme ça que si tu observes cet homme, donc il est dans son lit tranquille, il n'y a pas hein, les téléphones qui viennent le perturber ni rien, tout à coup tu t'aperçois qu'au fur et à mesure, d'accord, du temps, alors il se crispe, il a son visage qui change, tu peux le voir même changer un peu de couleur, il devient blanc, il devient... Et tu peux te dire, mais qu'est-ce qu'il a celui-là maintenant? Qu'est-ce qu'il est dans son lit? Qu'est-ce qu'il a? Tout simplement, sa pensée, d'accord, l'a attrapé, a pris le dessus sur lui-même. Donc cette petite pensée qu'il avait a commencé à gonfler dans son esprit jusqu'à qu'elle a pris toute la place dans son esprit, qu'elle en est arrivée à le paralyser. Et le type, il est malade. Il se sent mal, il a des peurs, il a des angoisses. C'est-à-dire qu'il a fait tous les films possibles et imaginables dans sa tête. Maintenant, il n'y a rien. Il ne se passe rien, c'est-à-dire que du moment où il s'est mis au lit, d'accord, jusqu'à qu'il va reprendre, il va se reprendre ses esprits, il n'y a rien qui a bougé. Les histoires sont les mêmes, ses problèmes sont les mêmes, il n'y a rien. C'est son imagination. Et tout ça pourquoi? Parce que justement, le Yetzer Hara, d'accord, il n'a qu'un seul but dans sa vie, c'est te tirer vers le bas. Donc, aujourd'hui, on en est conscient. Aujourd'hui, Baruch HaShem, on n'a plus envie de vivre, d'accord, dans le mensonge. Et on n'a plus honte de dire, ouais, c'est vrai, tu sais quoi, j'ai des angoisses, j'ai des peurs. Voilà. Aujourd'hui, d'ailleurs, les gens n'ont plus honte de dire, je prends des Prozac, des trucs. Bon, ça fait partie des choses de la vie. Bon, pas qu'il faut les prendre, mais aujourd'hui, on le dit plus facilement. Alors, donc dans la vie, d'accord, tu as deux options. C'est soit de te dire, Akadosh Baruch Hu, c'est lui, en réalité, qui va gérer ma vie. C'est lui qui est là et qui dirige tout. Et moi, mon travail dans ce monde-ci, c'est justement de m'en souvenir à chaque instant. Donc la jeune fille doit s'en souvenir pour passer ces années de célibat. Et on sait, c'est une très grande épreuve, d'accord? Parce que tu es là, tu es en stand-by, et puis tu vois les gens, ça avance, ça bouge. Et le Yetzer Hara, lui, te dit, et toi, ta vie, elle passe. Et toi, tu fais rien. Et l'autre, elle s'est mariée. Et celle-là, elle s'est mariée. Et il n'y a plus personne. Et tu sais quoi, l'horreur? L'autre, elle fait des gosses. Et toi, tu es encore sans les gosses. Et même pire, l'autre, maintenant, c'est la bar mitzvah. Et l'autre, et toi, tu es là, tu n'en peux plus. Tu dis, mais quand? Bon. Donc, ça, démettre que c'est des choses qui existent. D'accord? Des jeunes filles comme ça qui passent, le temps, il passe. Et la femme aussi. La femme aussi, démettre. Elle a son package, d'accord? Elle a son lot. C'est-à-dire qu'elle s'est mariée maintenant, donc elle doit sortir de son illusion que c'était peut-être une fille super, parce que tant que tu n'es pas mariée, donc tu es dans ton état semi-conscient, d'accord? Donc tu es dans tes angoisses, mais de temps en temps tu te dis, bon, je suis quand même pas mal. Mais dès que tu te maries, mais moi j'étais super. Moi j'étais une fille extraordinaire. J'étais appréciée par tout le monde, même si tu n'avais pas une copine. Hein. J'étais appréciée par tout le monde. Moi, j'étais calme. Moi, j'étais une fille, tu sais quoi, mais j'ai... Demande à tout le monde, j'étais la joie de vivre. Tu vois, tu rentres dans un mensonge, hop. C'est-à-dire que encore tu te... Et donc, tu te retrouves, d'accord, face à des difficultés, à une difficulté qui s'appelle la itmodedut. La itmodedut, c'est quoi? C'est la confrontation, d'accord, face à l'autre. C'est-à-dire que tu as ton mari qui est là, toute la journée, 24 heures sur 24. Tu peux de temps en temps te sauver à un cours de gym. Pour faire mieux, tu dis, je vais à un cours de Torah. Ou j'en sais pas quoi, un petit resto avec tes copines. Mais n'empêche que tu voudras te sauver là où tu voudras. En arabe, on dit dur, dur. tu devras revenir à la case départ. Il est là, devant toi. Et il ne lâchera pas. Donc, pareil, tu vas devoir te retrouver. Qu'est-ce que tu as ? Parce que quoi ? Parce que quoi ? Qu'est-ce qu'elle a, Stéphanie ? Hein ? Qu'est-ce qu'elle a ? Non, ici, c'est Sira Traveri. Donc, on peut tous se dire... C'est une discussion entre amis. Donc, on peut tous se dire. On n'est pas... Qu'est-ce que tu as dit ?
Non, c'est marrant, le fait de dire « je vais à la gym, je vais au truc ».
Ah, tu t'es reconnue ? Ah, toi, tu t'es reconnue. Ah, tu as reconnu ta copine. Sa mère. Ah, ta mère. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Toi aussi, Bezrat Hashem, tu feras partie, d'accord, du même clan. C'est pas la peine de faire la fille hautaine, genre toi, ça t'arrivera pas. Ça arrive à tout le monde, ne t'inquiète pas, Bezrat Hashem, tôt ou tard, ça viendra. Donc, tu te retrouveras, ça veut dire, à un moment donné, d'accord, où il faudra que tu sois mitmodedet, ça veut dire que tu devras te confronter. Quelle est la confrontation de l'être humain dans ce monde-ci ? C'est que, à chaque instant de ta vie, on veut, d'accord, te montrer une réalité qui n'est pas toujours plaisante. D'accord ? On te montre, ça veut dire, le côté noir de la réalité. C'est le Yetzer Hara qui fait ça. Tout ça, pourquoi ? Pour t'empêcher d'avancer. Mais d'avancer où ? Dans ta construction. Et ta construction, c'est Avodat Hashem. L'Avodat Hashem, c'est le service divin. Et la caractéristique de la femme, c'est quoi ? C'est qu'une femme, elle peut tomber plusieurs fois dans la journée, mais elle a cette force, elle a cette capacité de se relever à chaque fois, de se tenir droite et de dire « tout va bien ». C'est une dignité qu'on a en nous. On a toute cette d'accord ? Tout le monde tombe, ça arrive, c'est comme ça. Ça n'existe pas que tu tombes pas. Tu tombes, mais Akadosh Baruch Hu, il t'a donné en toi justement cette force à chaque instant de pouvoir te relever. C'est ça la femme juive. C'est accepter que tu peux tomber et te dire tout de suite, je me relève et je construis et j'avance. Ça c'est... C'est pas grave. Ça, c'est donc la femme juive. Alors, pourquoi Bémet que Akadosh Baruch Hu, il a créé comme ça son monde, d'accord, de manière à ce que toute la vie, c'est des montées et des descentes. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne nous a pas fait plutôt, je ne sais pas, un chemin plat, parsemé de belles fleurs, vous savez, comme dans les contes, là. Pourquoi pas ? Hein ? Un long fleuve tranquille. Je ne l'ai pas vu encore, celui-là. Parce que tu as la sensation qu'Hachem ne t'aide pas.
Non, si, que si tout va bien, on va le remercier. Et si ça ne va pas, on va...
Mais pourquoi ça ne va pas ?
Ben, je ne sais pas. Enfin, ça dépend de l'effet, quoi.
Pourquoi ça ne va pas dans notre vie ?
Ça ne va pas comme tu veux.
Ça ne va pas comme tu veux.
Parce qu'on aimerait que tout soit facile. On doit travailler sur le midot.
Toute la vie, c'est un travail de midot. Les midot, c'est quoi ? C'est de la mesure. D'accord ? C'est trouver la juste mesure. Toute la vie, c'est ça. Si j'en fais trop, c'est pas bon. D'accord ? Si j'en fais pas assez, c'est pas bon. C'est-à-dire, chacune, elle a sa spécificité et chacune, elle doit trouver sa juste mesure dans tout ce que tu fais. Maintenant, tu dis, on aimerait que tout aille comme on voudrait. C'est ça que tu m'as dit ? Non. Pourquoi on dit, on a la sensation que Akadosh Baruch Hu, il ne nous aide pas ? C'est ça ce qu'on avait dit au début ?
Pourquoi il y a des hauts et des bas ?
D'accord ? Parce que, voilà, c'est parce que quand on est en bas, c'est parce que les choses, elles ne vont pas comme on veut nous. D'accord ? Ok. Mais je me réfère à quoi, en fait, pour savoir comment ça doit aller ? C'est quoi ma référence ?
Notre imagination.
Ton imagination, elle est faite de quoi ?
La volonté aussi. On voit autour de nous.
Ouais, la comparaison avec les autres, donc oui, nachon, la société, les fantasmes, d'accord. Donc en réalité, tout ça, pour arriver au fantasme, pour arriver donc à la comparaison, ça veut dire qu'il faut que j'ai vu. Si justement, d'accord, je ne fais pas attention à mon regard, alors automatiquement, je vais développer des besoins, des envies, des idées. Et ces idées et tout ça, souvent, d'accord, eh ben, ça va créer en moi des déséquilibres. Ça va créer en moi, d'accord, des bilboulim. Ça veut dire, je ne sais plus trop où j'en suis. Mon esprit va être très embrouillé. Pourquoi ? Parce que si, en réalité, quand je regarde une chose, d'accord, je n'ai pas l'esprit clair pour toujours justement me rappeler que ça, c'est à toi et ça, c'est à moi, si j'oublie cette notion, c'est fini. Je m'embrouille. Et là, ça commence à aller mal dans ma tête et ça va mal dans ma vie. Quelle que soit ta situation, parce que ça n'existe pas, si tu regardes bien autour de toi, ça n'existe pas d'abord, enfin moi en tout cas perso, hein, je ne sais pas, après vous allez peut-être me dire j'ai tort, mais je pense que je vois pas mal de monde quand même, qui me racontent en plus leur vie. Pour le coup, je suis au courant. J'ai pas encore vu une personne, d'accord, pour qui sa situation, c'est le top. Ça n'existe pas. Est-ce que vous connaissez, vous, quelqu'un qui vous dit « je suis au top » ? Si tu es entier, si tu es entière avec toi, mais ça veut dire, si tu as cette connexion parfaite avec Akadosh Baruch Hu, donc oui, c'est vrai, tu es au top. Mais attends, c'est sans faire cas de ton ami, le Yetzer Hara, qui te lâche pas. Ça veut dire, c'est une sangsue, d'accord ? Quelle que soit ta situation, ça veut dire, tu es en bonne santé, tu peux être plus, oui, il te manque un truc, t'as de l'argent, oui, mais t'as pas ça, t'as acheté un vêtement, oui, tu aurais voulu celui-là, t'as un mari, en fin de compte, t'aurais voulu un autre, etc., etc. Oui, ça existe, figure-toi. Hein ?
C'est un problème, celui-là.
Écoute, malasote, c'est ça ? Comme elle a dit, c'est la comparaison. Tu verras toujours le mari de l'autre mieux que le tien.
Non.
Souvent.
Non.
Baruch HaShem. Souvent. Pas à Tel Aviv.
On regarde même pas le mari de l'autre.
T'as raison. Et c'est sûr que lui, il te regarde pas non plus.
Comme ça, mon
c'est... souvent, d'accord. On regarde ce qui se passe un petit peu à droite, à gauche. La copine, elle nous parle. Et donc, tout de suite, il y a un élément de comparaison. C'est comme ça, c'est humain. C'est comme ça. C'est pas la peine de dire... c'est pas vrai. C'est la vie. Tu entends ta copine qui te dit « Mon gosse comme ça, mon mari comme ça. » toi, tout de suite, tu dis « mon mari et mon gosse, n'en parlons pas. » Et là, c'est la dépresse. D'accord ? L'autre, elle va te dire « Mon fiancé comme ci, mon fiancé comme ça. » Et toi, juste ce jour-là, ton fiancé, t'as envie de l'assassiner. Tu vois ? C'est-à-dire, c'est comme ça. T'as toujours cet élément de comparaison. D'accord ? Et c'est pour ça que Bémet, le Likoud... Non. Tu dois... ce que tu dois en tirer comme leçon, c'est qu'en réalité, le fait de regarder ce qui se passe chez l'autre... Si tu ne regardes pas avec un regard plein de émouna et plein de confiance en Dieu, ton regard va te perturber. Tu comprends ce que je veux te dire ? Bien sûr, dans tous les sens. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé, d'accord, au stade, ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde est perturbé. C'est parce qu'on a créé un bgam dans la reya, un bgam, hein ? Vivons heureux, vivons cachés. Ouais, mais alors là, pour le coup...
Ah, faut être désolé, là.
Non, je te dis tout de suite, avec les téléphones d'aujourd'hui, quels vivons heureux et quels cachés. Ça veut dire aujourd'hui, tout ce que tu peux montrer, tu le montres. Attends. C'est ça, c'est... C'est ça, ça veut dire tout commence par le regard, et comme il dit Rabbeinu, il y a le Bgam Areya. Le Bgam Areya, ça veut dire le défaut de la vue, le défaut du regard. Voilà. À partir du moment. Non, parce que même dans ton regard, tu dois savoir faire attention à ce que tu regardes. Tu ne peux pas tout regarder. Alors, je t'ai pas dit de faire comme ça. Non, tu peux pas. Mais à toi de savoir, d'accord, baisser les yeux. À toi de savoir, d'accord, tout de suite avoir, ça veut dire le muscle de l'aïmouna, le muscle justement de cette connaissance, dit toujours de percevoir. Est-ce que c'est bon pour mes yeux ou pas? Mes yeux, c'est automatiquement ma neshama. D'accord? Parce que l'œil qui regarde, l'œil qui voit, ok, ben, ça enregistre. L'œil, jamais il va te dire j'en peux plus de regarder, arrête, ferme les yeux. C'est au contraire, plus je vois et plus je veux voir. D'accord? Et donc, automatiquement, ce que tu as vu, ça va s'enregistrer en toi. Ok? Donc, si maintenant, je n'ai pas éduqué mon regard, je ne me suis pas éduqué moi-même, et que je regarde des choses qui ne sont pas autorisées pour moi, des choses qui ne m'appartiennent pas. Un des exemples. Tu peux donner un exemple? Vas-y, Bathsheba.
Pour des jeunes, je peux donner un exemple. Par exemple, toutes les séries qui regardent les anges de la télé-réalité, les trucs de la réalité, ça, ça leur donne un regard.
C'est quoi ça?
C'est
bidon?
La télé-réalité, la télé-réalité. Donc, ils leur vendent des illusions.
Je sais pas ce que c'est alors. Bon. C'est oui, Sacha. C'est des histoires. C'est des histoires. Ah. Ah.
Entre eux, ils n'ont que des histoires débiles. Il m'a dit ça, il m'a parlé de ça, machin. Donc, vous voyez, en fait, c'est au bord de la piscine. Ils sont dans des bateaux, ils sont dans des voitures, mais pour les jeunes, ça, c'est un regard qui est.
Alors,
c'est du voyeurisme.
Bon, attends. Donc, ok, d'accord. Bon, c'est des films, quoi. Alors.
Non, c'est pas des films.
Non, mais c'est comme un film. On te fait croire, d'accord? Bon. Alors, deux secondes. Donc, c'est sûr que voir, d'accord, des scènes de gens qui sont en situation dans leur vie de tous les jours. D'accord? Ils appellent ça télé-réalité? Ben, c'est télé-mensonge. Parce que c'est pas la réalité. La fille, elle va pas se montrer en train d'aller aux toilettes, j'imagine.
La jeune fille, elle regarde ça, elle dit, moi, je veux aller habiter à Los Angeles, moi, je veux aller habiter à Venice Beach, je veux faire des
choses. Bon. Alors, oui, qu'est-ce que tu veux dire? Honte sur toi! Honte sur toi et ta mère! Alors regarde, non, c'est pas un mot. Comment il s'appelle? Sharon.
Le pire, c'est les Marseillais.
Sharon.
J'avais l'œil sur les Marseillais.
Regarde.
C'est quoi ce genre-là?
Sharon. Je vais te dire quelque chose, d'accord? Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Je connais pas. Sharon, regarde, je vais t'expliquer quelque chose, d'accord? Je ne connais pas bien toutes ces choses-là, mais ce que je peux te dire, d'accord? Moi, de ce que j'entends, ce que vous me racontez, c'est que toi, tu me dis, j'aime bien, je regarde. Et maintenant, elle a parlé de la télé-réalité. Après, chacune, Alison, toi, tu as parlé de quelque chose d'autre. D'accord. Après, chacune, elle va prendre le film qu'elle aime, le livre tordu qu'elle lit, ou les journaux débiles qu'elle va lire. D'accord. Chacune, elle va prendre ce qu'elle veut. OK. Ce qui est la problématique de tous ces médias et de tout ce que vous utilisez, c'est que doucement, doucement, on va nous faire accepter l'inacceptable. Par exemple, il y a, allez, 200 ans, voilà, on va banaliser, démocratiser la crasse. Il y a 200 ans, ben, c'était vraiment, c'était honteux, d'accord, pour une femme, par exemple, de se promener avec une jupe où elle montrait son genou. Je ne vous parle pas de la mini, et aujourd'hui j'ai entendu un nouveau mot, la micro. Voilà. Hein ? La micro, ça veut dire on va voir la culotte. Bon, que Dieu nous en préserve. Donc, hein ? C'est drôle ? Non, c'est pas drôle. Ah ben oui, voilà, moi j'ai entendu. Comme quoi ? Donc, il y a 200 ans, d'accord, une femme juive, elle n'aurait pas osé mettre une jupe ou une robe ou quoi, où on aurait vu ses genoux. Quand je parle de la femme, c'est même la non-juive, d'accord ? C'était pas du tout dans les normes. Avec le temps, d'accord, et donc la démocratisation et la vulgarisation des choses et tout, et tout, et tout, on est arrivé aujourd'hui à un stade où ça ne nous dérange plus, d'accord, de se promener aujourd'hui. Hier, c'était aujourd'hui, non, aujourd'hui on est mercredi. Hier, il y avait une fille dans la Ranana, dans le cours, qui nous disait, notre amie, elle disait, ben, moi, avant de faire tchouva, j'évoluais dans un monde où Bémet, c'était pas un problème de se balader presque nu, quoi. C'était normal, il n'y avait pas de souci. Alors, je rigolais, moi, au début. Je lui dis, ah, il n'y avait pas ta mère. Elle me dit, mais non, ma mère avec moi. Bon, ça veut dire, ça nous fait rire, mais en réalité, c'est ce qui se passe. Quand tu te balades en short, d'accord, qu'on voit presque tes formes en hauteur, et quand tu te balades avec des hauts où on voit ta poitrine, d'accord, ou que tu vois, on voit, c'est tout est transparent, bah, et que tu fais ça avec ton enfant, bah oui, ça veut dire tu as démocratisé en réalité l'impensable et l'impossible, d'accord. Donc tout ça fait que, si tu veux, quand tu regardes tous ces films, quand tu lis, quand tu fais toutes ces choses-là, doucement, doucement, d'accord, c'est comme du goutte à goutte, on te fait accepter ce qui était inacceptable pour toi. Aujourd'hui, par exemple, malheureusement, on entend des histoires terribles au sein de notre peuple, d'accord, ici, en Israël, Tel Aviv, Jérusalem, et là, où tu veux, Ashdod, ce que tu as envie, d'accord. On entend des histoires terribles qui touchent à la moralité du peuple juif. Aujourd'hui, plus personne n'est choqué. Plus personne ne se dit, oh là là, mais c'est très grave, c'est bon, c'est des faits divers, c'est des choses de la vie, c'est comme ça. Pourquoi ? Hein ?
C'est banal.
C'est banal. Pourquoi ? Parce que justement, quand tu regardes tes films et tout le reste, d'accord, bah, doucement, doucement, on te fait accepter des choses. Il n'y a plus rien qui est grave. C'est-à-dire que quand tu regardes les gens, d'accord, en maillot de bain, là-bas dans le film à Ibiza, ben toi déjà, tu vois Ibiza, tu dis, ben, déjà Ibiza, je comprends, on est nu. Donc c'est la normalité. Donc quand toi tu iras à Ibiza ou quand toi tu t'imagines ou quoi, sur une plage à droite ou à gauche, c'est la normalité de se balader comme ça. Tu comprends le danger ? C'est-à-dire que sans t'en rendre compte, c'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'on est en train, d'accord, de te rentrer du poison. C'est pas grave si ce poison ne te touche pas, toi, aujourd'hui. Il te touchera avec la prochaine descendante. Tes enfants, ils seront touchés parce que tu as rentré le poison. Tu comprends ce qui se passe ? Elle fait tchouva, tu peux jeter la télévision, je pense. Donc,
on n'a pas de télé, c'est les ordinateurs.
Jette ! Mérimone, mettez le filtre dans vos maisons. Mettez le filtre.
Ah, parents...
Oui, parents, machin truc, ouais. Mais au moins, tu te protèges. Qu'est-ce que tu dis, Beverly? Attendez, venons, on écoute ce que chacune, elle raconte, comme ça, ça nous enrichit à nous toutes.
Par rapport à ce genre de programme télé, je disais que tout le monde n'avait pas la capacité sur la part des choses. Aujourd'hui, on a une jeune fille qui vient d'une bonne famille, qui a reçu une bonne éducation et qui prend ça un peu comme un amusement avec le second degré.
Tout à fait.
Malheureusement, on a beaucoup de gens dans notre communauté, jeunes ou moins jeunes, qui n'ont pas assez de discernement et qui ne savent pas faire la part des choses entre la vraie vie et ces programmes qui sont totalement montés. Et je disais à Déborah, si moi, demain, je suis devant ma télé, qu'elle est encore à côté de moi dans mon lit et que je savais que je compte sur les Marseillais, je vais changer aussi vite que si j'avais un film.
C'est encore un autre truc.
Parce qu'il y a trop de vulgarité.
Ah ouais,
il y a trop de vulgarité pour des enfants, c'est inadmissible. Et pour moi, c'est de l'éducation implicite.
Mais c'est quoi la vulgarité pour toi?
Oh bah, les gros mots, ils se roulent des pelles en plein.
Ils sont trop doux,
D'accord. D'accord. Attends. Bien sûr.
C'est pas dans toutes les maisons où il y aura les parents à côté pour vous appeler. Il y aura des maisons où les parents ne sont pas là. Il n'y a pas de contrôle de ça.
Et pour moi, ça, c'est une éducation implicite. C'est-à-dire qu'on n'est souvent pas tout le temps là, les parents.
Et puis non, puis je vais te dire, tu oublies nouvelle arme, c'est le téléphone. D'accord? C'est-à-dire que quand tu donnes à ton enfant un iPhone en main, ça veut dire que tu es la plus grande assassin qui existe au monde. Parce que l'enfant, le malheureux, lui, il va pas aller chercher la saleté, c'est un enfant. Mais qu'est-ce que tu veux faire quand la saleté elle se présente devant lui? Et qu'il est agressé, qu'il ne sait pas quoi faire. Tu sais ce que c'est pour un enfant, d'accord, un enfant, une jeune fille, de voir des scènes tordues ou des images tordues? Mais c'est un traumatisme. Je vais vous dire, j'en connais plein des jeunes filles, d'accord, qui ont eu des problèmes, d'accord, dans leur relation intime à cause de toutes ces images qui les ont attaquées, qui les ont choquées, et qu'après elles n'arrivaient plus. Parce qu'elles se retrouvaient dans une réalité, mais dans leur réalité, elles étaient déjà dans l'autre, dans les images. Vous comprenez? Donc, tout ça, en réalité, il faut faire... Oui, c'est une vraie catastrophe, il faut faire très, très attention. Mais, pour revenir à notre... Ça, c'était une petite parenthèse. C'est vrai qu'à partir du moment, d'accord, où je n'ai pas, dans mon regard, je ne fais pas attention et que je n'ai pas, justement, cette force de dire, ça, je ne regarde pas, je baisse les yeux... automatiquement, je vais créer un gamme, un défaut dans le regard. Et ça, c'est une éducation qu'on doit se faire nous-mêmes, toutes seules. Donc, il faut, chacun de nous, on doit se dire, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui crée le monde. Et chaque génération, d'accord, elle a son épreuve. Aujourd'hui, on est dans une génération où, Bémet, tout est ouvert. Tout est ouvert, tout est permis. Il n'y a plus, ça veut dire on n'a plus presque de rien. Il n'y a plus de marsomme, il n'y a plus de barrière. Donc moi, je suis obligée, d'accord, de me créer ma propre barrière. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'on vit dans des communautés, on vit dans des endroits, on a des amis, on a des trucs, et on n'a pas envie, d'accord, d'être différent des autres. Mais c'est ça toute la force justement du juif, c'est que Rabbi Nachman, il nous enseigne que on se doit, d'accord, d'apprendre à vivre à contre-courant. Si tu veux pouvoir, d'accord, arriver, si Dieu veut, à 120 ans stable, sans trop de dégâts émotionnels, et émotionnel et compagnie, d'accord, tu es obligé de te dire tout le temps, je vais à contre-courant. La première chose pour aller à contre-courant, c'est quoi? De ne pas faire comme les autres.
De ne pas s'habiller comme les autres, de ne pas parler comme les autres.
D'accord.
De les laisser en fait dire et nous de filtrer et de passer à travers.
Très bien.
Avoir la force de passer à travers, ce n'est pas évident.
Pas du tout, mais comment tu vas faire? C'est quoi l'outil?
D'abord, c'est développer sa propre émouna.
Comment tu vas faire pour la développer?
Travailler sur toi.
Comment tu vas travailler sur toi?
Étudier,
si tu sais prier, il y a fait l'aide beau des doutes. Tu sais ce que c'est l'aide beau des doutes? L'aide beau des doutes, ça va être l'arme numéro un. C'est quoi l'aide beau des doutes? C'est justement de s'asseoir, d'accord, de se trouver un endroit et de parler avec Hachem. Parler avec Hachem, ça veut dire aussi parler avec son point divin. Si je ne fais pas ça, d'accord, automatiquement, je ne peux pas aller à contre-courant. Pourquoi? Parce que le monde, d'accord, ça veut dire la vie en général, tout est fait de façon à ce que tout aille très vite et tout est fait de manière à ce que j'oublie mon essentiel. Si vous regardez bien, d'accord, vos journées, elles passent, vous dites « Waouh !» Et la semaine, elle est passée quoi? Déjà Shabbat, c'est incroyable, j'ai rien fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tout va très, 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 très vite. C'est comme la technologie, tout va vite, tous les jours, ça change et tout ça, d'accord? Donc, si moi, je ne prends pas un moment dans ma journée pour m'asseoir et pour commencer à parler avec Hachem et pour dire en quelque sorte « Stop, arrête sur image, il n'y a plus rien qui existe. Maintenant, je me recentre. » Quand je vais me recentrer, automatiquement, d'accord, avec doucement, doucement, si je cherche la vraie vérité, je me connecte donc à Kadosh Baruch Hu, à mon point divin, et là, je vais commencer justement à développer une discussion avec Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que je vais me pénétrer de l'esprit divin, je vais me pénétrer de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça. Et plus je vais me pénétrer de la grandeur d'Hachem, plus je vais me pénétrer, ça veut dire de son existence, d'accord? Alors automatiquement, je vais développer justement, d'accord, cette croyance en lui, cette confiance en lui, et puis je vais développer un nouveau regard. Je vais réparer le bgam de la reya. Je vais réparer le défaut du regard. Pourquoi? Parce que plus je vais parler avec Hachem, plus je vais développer un lien, et plus automatiquement, je vais voir Hachem un peu partout.
Est-ce que c'est pas possible dans un cas comme ça justement d'utiliser par exemple ce qu'on fait dans la vie, notre travail, etc. pour les galotes à Kvod Hachem, en fait, permettre de dévoiler la grandeur divine?
Tout à fait, c'est ça. C'est, tu rajoutes encore ce que je dis. Ça veut dire que si j'attends d'être dans une sina ou avec mon livre de prière, d'accord, pour me connecter avec Hachem, ben je risque de ne pas vraiment me connecter avec lui, parce que la Sina, déjà, je n'y vais pas souvent. Et le livre, jusqu'à que je vais tendre le bras, d'accord, c'est déjà une guerre en soi. Pour prendre le livre et l'ouvrir, ça veut dire que j'ai une chance sur 1000 de découvrir Akadosh Baruch Hu. Je ne sais pas si tu vois la folie. Donc, oui. Déjà, parce que c'est vrai, tout à fait, mais ça, Nagit, que ça déjà que tu as réussi à tendre le bras, ça veut dire déjà que tu t'es un petit peu connecté. Mais même ça, tu as raison. Si tu filmes une personne en train de prier, d'accord, elle est avec un livre, souvent d'une langue inconnue, l'hébreu. Ensuite, surtout l'hébreu biblique, oui, bon, l'hébreu de toutes les façons. Bon, ensuite, Nagit, que tu vas dire qu'elle a pris peut-être un livre en français, un sidour en français, où elle comprend l'hébreu, qui c'est qui va se concentrer sur la première phrase, véritablement, avec toutes les pensées, les machins? C'est-à-dire que ton esprit, il va être tout de suite happé par tes gosses, ton mari, ta machine à laver, tes courses, ton découvert bancaire, ta robe de ce soir, ta soirée de demain, etc., etc. C'est comme ça. D'accord? C'est la normalité, c'est magnifique, parce qu'aujourd'hui, on est capable de le dire. Voilà. Aujourd'hui, on a plus honte de le dire, parce qu'avant, les gens, ils disaient, non, moi, je prie, pas du tout. Bon. Donc, Baruch Hashem, aujourd'hui, on est capable. Tu comprends? Donc, oui, en effet, tu peux arriver. Ton travail, c'est quoi? C'est justement de vivre avec Dieu tout au long de ta journée. C'est ça, en réalité, le travail. C'est-à-dire que mon mari, c'est Dieu. Mes gosses, c'est Dieu. Ma banquière, c'est Dieu. ma voiture, c'est Dieu. Ce que tu... Qui, quoi?
La banquière, c'est pas sûr.
Si, pourquoi pas? Bien sûr, tout le monde. Tout le monde. Tout, c'est HM. Tu comprends? Et donc, automatiquement, quand tu perçois HM partout, ta vision de la vie, elle est totalement différente. Maintenant, pour réussir à faire ça, d'accord? Parce que faut se muscler, il faut muscler son esprit. Tu comprends bien que la vie, justement, elle veut te faire sortir de tout ce système. Donc, toi, ce que tu vas faire, ton outil de base, c'est que tous les jours, tu vas dire, arrêt sur image. Maintenant, je me connecte, d'accord, à moi. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler avec Akadosh Baruch Hu.
C'est logique que ce soit, il faut sortir des mots.
Oui.
On peut juste penser.
Non, il faut que tu parles. Il faut que tu puisses parler. Alors, bien sûr que tu vas parler pas devant toutes tes copines, parce que le but de l'Aïdvo des doutes, c'est parler de toute ta crasse qui pue. Ça, tu vas pas le faire devant tes copines, tu peux pas. C'est impossible, c'est mort. Donc, c'est vrai ou pas? Voilà. Donc, tu vas le faire quand tu es dans un petit coin tranquille, d'accord? C'est très intime, puisque tu vas parler de ton intimité propre. Tu vas aller même parler de ton intimité que toi-même tu veux occulter. C'est pas moi. Tu vois, souvent, tu fais des choses. Souvent, moi, je sais que quand j'ai des personnes comme ça qui viennent me voir, qui me racontent leurs histoires, alors elles me parlent à demi-mot. Alors, en fait, alors elles te mettent dans le contexte. Et donc donc en fait, on a fait, voilà. Et donc, il y a eu des trucs. Donc, je suis dans le voilà, dans le truc, dans le machin, dans là. Et moi, je dis, attends deux secondes, viens, pose-toi, dis les choses. Alors là, déjà, la personne, elle est un peu comme ça, elle se sent un peu mal, d'accord? Et elle te dit, bon, donc voilà, hein. Et donc, c'est dis les choses, jusqu'à que la personne, elle arrive à te dire véritablement. Et je peux te dire une chose, c'est que quand tu prononces les choses, d'accord? C'est-à-dire, tu mets un mot sur les gestes, sur les actes, sur les faits, c'est pas pareil. Parce que tu prends conscience. Tu comprends? Tu ne peux pas véritablement prendre conscience en pensant, parce que ta pensée, en réalité, d'accord, elle va vite t'emmener vers autre chose. Pourquoi la pensée, elle va vite t'emmener vers autre chose? Parce que ta pensée, en réalité, d'accord, ton dimion, tu veux pas? Bye, Leitraot, bye, mamie. Be'atzlacha, rabba, rabba. J'étais très contente de faire ta connaissance. Si Dieu veut, prends un livre, regarde un livre sur la table, on les offre. Pas tous, tu en as que tu n'as pas. D'accord. Bezrat Hashem. Be'atzlacha. Be'simcha. Donc, ta pensée, qu'est-ce qu'on a dit? C'était donc le Yetzerara. D'accord? Donc, le Yetzerara, lui, quand tu penses seulement, d'accord? Au début, tu viens avec une vraie volonté, d'accord, de faire le travail, mais, donc ça c'est, d'accord, la volonté, mais tout de suite, le Yetzer Hara, il va te tirer vers autre part, et là, dans ta pensée, tu vas aller très loin de ce que tu devais faire. Tu comprends? D'où l'importance de dire les mots. L'importance de dire les choses telles qu'elles sont, et ne pas avoir honte. Parce que la meilleure des thérapies, c'est de dire les mots, d'avouer les choses, et de dire, voilà, j'ai fait ça. Et je suis consciente que ce que j'ai fait, c'est pas le top. Déjà, tu vois, tu t'es vidé, tu t'es vraiment sorti de ton truc. Maintenant, dans l'Aïdvo des doutes, c'est très important, d'accord, de d'abord se juger ce qu'on appelle les kafsrout. C'est quoi se juger les kafsrout? C'est de se juger avec bienveillance. D'accord? Parce que, encore une fois, ta pensée, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il est amené en général à te dire du matin au soir? Que t'es nul, que t'es raté, que tout ce que tu fais c'est naze, que t'es jamais assez bien. Et il sait exactement où t'attraper, dans les points faibles. C'est-à-dire les points positifs qu'il y a en toi, il te les fait oublier. D'accord? Donc toi, ton travail, c'est justement, hop, vite, je vais dire les points positifs. Pourquoi c'est important de faire ça aussi? Parce que si je suis capable de voir en moi les points positifs, je vais être capable aussi de regarder chez l'autre les points positifs. Quand moi, je suis dans le din, d'accord, dans la rigueur pour moi-même, automatiquement, je vais être dans la rigueur vis-à-vis de l'autre. Et donc, je vais rentrer en conflit. OK ? Le conflit commence par moi et automatiquement, il va s'étendre à mon voisin, mon prochain, ma famille, mais enfin, tous les gens qui m'entourent. OK ? Donc, à partir du moment où je me connecte avec Akadosh Baruch Hu, je vais remercier aussi, dire, apprendre à dire merci à Akadosh Baruch Hu, et doucement, doucement, avec le temps, même si ça ne se fait pas tout de suite, je vais réussir, Béhémeth, d'accord, à comprendre que toute ma vie, c'est un suivi, on va dire, d'événements qui, au début, me paraissaient terribles, très difficiles. Ça s'appelait des épreuves, d'accord. Mais ces épreuves-là, c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui et c'est ce qui a contribué à ma construction. Et ça, si j'arrive à faire ça, ben on peut dire que Béhémeth, j'ai fait un grand pas. Pourquoi ? Parce que j'ai employé, d'accord, la méthode de l'embrayage. Ça veut dire que là, maintenant, je ne vais plus pleurer sur mon sort. Vous vous rappelez la chatranite du début ? Qui a dit à la jeune fille, oh là là, mais comment on va te marier, toi ? C'est énorme ton histoire, c'est pas possible. D'accord ? C'est terrible. Elle vient, elle lui dit, ben non, tu sais quoi, non. Parce que moi, mon sac, Prada à côté, il va se cacher. Moi, c'est signé HM. Tu comprends ? C'est ça, en réalité, que je dois intégrer ça en moi toute la journée. Mon package, ma chavila, c'est HM. Alors pareil, en tant que femme mariée, d'accord, tu peux aussi dire mon tic, il est énorme, que ce soit avec mon mari, moi, mes erreurs, mes problèmes, c'est Hachem. Tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait que. Tu comprends? Ça veut dire, quel que soit l'événement que tu as pu passer dans ta vie, sache te relever en te rappelant que cet événement-là, d'accord, ben ça faisait partie de ta construction. Souvent, la Chazara Bitshuva, comment elle est arrivée, la Chazara Bitshuva ? Hein ? Suite à une épreuve. C'est-à-dire que si tu n'étais pas passé par cette épreuve spécifique, tu n'aurais jamais pu faire Tshuva. Tu comprends ?
Oui, j'ai cherché justement où est-ce qu'on voulait en venir. Parce que je vais être en train de demander pourquoi cette jeune fille a un sac plus grand que les autres finalement.
Mais tout le monde, écoute une chose, si tu regardes bien, cette jeune fille, c'est toi, cette jeune fille, c'était moi, c'est Steph, c'est Sacha, c'est nous toutes.
Oui, je suis d'accord avec ça, mais moi, je trouve qu'il y a des jeunes filles, même
des femmes mariées, même.
Hein. Il y a des individus, oui, qui ont des sacs plus chargés que d'autres. Mmh.
À tes yeux.
Ouais, la
mais
c'est
pas seulement ça, c'est que il faut que tu attends.
Allez.
D'accord. Alors, je vais t'expliquer. Que Dieu préserve. C'est vrai. Alors, viens, on va essayer de discuter là-dessus, d'accord. Alors, déjà. C'est vrai qu'il y a des gens, quand tu entends leur histoire, d'accord, ça t'a l'air terrible. Ça veut dire c'est chargé. Tu te dis, attends, la fille, c'est vrai. C'est pas simple. Juste pour rappel, tu me dis quand tu n'es pas d'accord ou quand tu ne suis pas d'accord. Pour rappel, c'est que on est des réincarnations. C'est-à-dire que, si tu veux, on est des bébés avec une peau toute lisse, toute belle, toute. Hein, mais en réalité, on est des vieilles de chez vieilles. On nous a juste fait un petit lifting, tu vois. On nous a fait en miniature, mais. Bon. Donc ça, c'est d'abord la première chose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, qui dit réincarnation ? Ça veut dire que tu es revenu ici, d'accord, pour faire un certain job. On est d'accord jusque-là ?
Ouais.
Maintenant, tu as des âmes, et surtout nous, qu'on est vraiment à la fin des temps, en fin de compte, d'accord ? Tu as des âmes plus chargées que d'autres, qui ont des réparations, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas juste un frein ou un embrayage à réparer, c'est le guidon, la roue, le moteur, ce que je sais, moi, tout ce truc. Bon, tu ne sais pas pourquoi. C'est vrai, ça fait, tu peux avoir, et tu dois avoir des fois de la peine et te recompatir au tsar de l'autre et tout ça, d'accord ? Mais tu dois tout de suite, justement, prendre un certain recul et te dire, attends deux secondes, d'où ça vient tout ça ? D'Hachem. Quoi, Hachem, c'est une crapule, Chas v'Shalom ? Hachem, il s'est planté. Hachem, ce jour-là, il s'est levé du mauvais pied en disant, attends, ça là, tu vas voir, je vais la tuer, je vais l'esquinter. Il faut que je la... Non. Hachem, il sait, par rapport, d'accord, à la réparation de chaque âme, chacun ce qu'il doit passer. Et juste pour info, il faut que tu saches une chose. C'est que l'âme, avant de descendre dans ce monde, qu'elle est toute vérité, toute, d'accord, elle est connectée, c'est-à-dire, il n'y a pas le corps, justement, qui nous empêche de regarder les choses. L'âme, Hachem, il lui dit, bon, alors, viens, regarde. Donc, tu vas descendre pour telle et telle mission. Alors, vas-y, choisis. Tu veux cette famille, famille Bokobza, famille Torjman, famille Birenbaum ou famille j'en sais rien quoi. D'accord ? Et toi, en connaissance de cause, d'accord ? C'est-à-dire, tu sais maintenant le trajet, tu sais tout ce qui va t'arriver puisque tu vois. Voilà, tu choisis cette famille, c'est ce qui va t'arriver. Tu choisis cette famille, c'est ça. C'est-à-dire, le début, d'accord ? Tu le connais, le milieu, tu connais et tu connais la fin. Où tu dois arriver pour réparer. Toi qui es une âme et donc que tu es encore, si tu veux, tu as la perception juste des choses, tu vas dire, bon, ben moi, je suis prête. Ok, donc tu sais quoi, je vais aller chez famille Bokobza. J'ai décidé. Hachem, il te dit, bon, t'es sûr, t'es ok, t'es là ? Oui. Avant de descendre sur terre,
tu choisis ton fardeau.
Tu choisis ton fardeau. C'est-à-dire, tu sais ta réparation et tu sais comment tu vas y arriver. Tu es obligé de passer par un rail avec des stations. C'est comme ça. D'accord ? Bon. Avant de descendre, Hachem, il te dit, écoute, ton épreuve principale, ça va être de ne pas oublier. C'est de te rappeler.
Choisi.
Ce que tu as choisi. Et toi, tu vas dire, pas de problème. Et là, Kadosh Baruch Hu, il te dit, n'oublie pas. Je te rappelle, c'est toi qui as choisi. Pas de problème, j'assume. Et là, tu descends. Et là, tu as tout oublié. C'est-à-dire, tu as poussé ton premier cri. Tac, oublie tout. Et là, va falloir faire le travail. C'est quoi le travail de toute notre vie ?
Se souvenir.
Se souvenir de quoi ? Que c'est Akadosh Baruch Hu, le maître du monde. Que Akadosh Baruch Hu, il est en train de te faire passer par des stations pour réparer, que toi tu ne te rappelles pas ta réparation, mais toi maintenant tu vas te renforcer dans cette confiance en Hachem. Kakadosh Baruch Hu, ce n'est pas une crapule, Chas v'Shalom. Kakadosh Baruch Hu, il ne s'est pas trompé, et que la Chazara Bitshuva, ce n'est pas lui qui doit la faire, c'est toi.
En fait, il faut prier pour réparer.
La réparation, elle est essentiellement dans ta tefila. Hachem, donne-moi cette confiance en toi. Donne-moi le mérite de me souvenir. Donne-moi la possibilité de me rappeler à chaque instant que tout ce que je vis, ça vient de toi. Et, pour arriver à ce que tu viens, à ce que tu as dit tout à l'heure, donne-moi cette force de ne pas me faire attraper par mon imagination, Yetzerara, qui va me dire quoi ? Mais t'as pas la force. T'as pas la capacité. C'est énorme ce que tu vis. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que chaque personne qui vit son épreuve, elle a l'impression que c'est au-dessus de ses capacités. Et ça, c'est le Yetzer Hara qui lui fait croire ça. Pourquoi ? Pour qu'elle baisse les bras, pour qu'elle soit attirée vers le bas et qu'elle devienne une dépressive et qu'elle ne fasse pas son job. Tu comprends ce que je veux te dire ? Tu n'es pas d'accord ? Vas-y.
Non, je ne veux pas épiloguer là-dessus.
Parle.
Non, il y a des gens qui sont malades aussi.
Attends, je te parle de tout, moi.
Qui sont malades de l'esprit
Ah, mais tu sais que la plus grande des maladies, c'est la maladie de l'âme. C'est vrai.
Donc, ils n'ont pas toute leur esprit saint pour pouvoir se rapprocher en prière et se rapprocher là.
Alors, je veux te dire quelque chose. Souvent, on entend l'autre, c'est un fou, mais il est malade, c'est un paranoïaque, c'est un schizophrène. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a encore comme maladie de l'âme. Les schizophrènes. Alors, je veux que tu saches quelque chose. Nous sommes tous schizophrènes. Il y a des degrés. Tout le monde est malade. Sache une chose. Tout le monde est malade de l'âme. On a tous en nous deux côtés. Tu comprends ce que je veux te dire ? On a le côté du réel et on a le côté de l'imaginaire. Le schizophrène, c'est quoi son histoire ? C'est qu'à un moment donné, ça s'embrouille. Mais est-ce que ça ne s'embrouille pas d'abord pour nous tous ? D'accord avec moi ? Tout le monde, quand tu es attrapé, quand ton idée, quand ton imagination, elle a pris le dessus sur ta réalité. D'accord ? Donc, ça racole. À ce moment-là, tu es dans l'état de la schizophrénie. Seulement, à un moment donné, d'accord, quand tu n'es pas atteint à 100%, tu arrives à te retirer de cette histoire et te dire, non, non, c'est... Bon, attends. Il y a la réalité, il y a mon imagination, il y a tout ça. D'accord ? Donc, c'est des degrés, la réalité. Tu as raison, ce que tu dis. Tu as raison à 100%, mais encore une fois, nous, on n'est pas capable de comprendre pourquoi un tel est atteint à un certain degré et un tel, il est atteint à un autre degré. Quand moi, je suis face à une personne, d'accord, qui est malade à un point où elle ne peut même plus prier, je me dois de prier pour elle. Pourquoi ? Parce que nous sommes responsables les uns des autres. Tu comprends ce que je veux te dire ? C'est-à-dire que je me dois, quand j'entends un tel est malade, un tel a un problème, moi je dois prendre ça sur moi, d'accord ? Ça fait partie de ma réparation à moi. Si j'entends, écoutez bien ça, parce qu'aujourd'hui on est tellement inondé par des fois je les mains pour tout le monde. Donc, aujourd'hui, quand tu entends s'il vous plaît, priez pour un tel, machin, tata. Même si tu n'as pas le temps de faire un télim pour telle ou telle personne, tu as lu le nom, tu lis le nom, tu dis Bezra Tachem, refoua shlema. Refoua ta gouf, refoua ta nefesh. La refoua, la guérison du corps et la guérison de l'âme. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où moi, j'ai vu refoua shlema pour un tel et que moi, je n'ai pas prié pour elle, quelque part, on va savoir si je ne suis pas responsable de sa non-guérison. T'as pas pu prendre un télim, bon d'accord, mais t'as lu, qu'est-ce qu'il y a ? T'es en train de lire, dis refoua shlema, dis le nom et amen, Bezrat Hashem. Tu comprends ? Donc.
C'est pas là que tu refais le même télim, supposons que t'es dans ton, tu vois ça. Tu peux faire un télim que tu connais que t'as déjà fait la journée ?
Pourquoi pas ?
Voilà.
Non.
Tu peux faire celui que tu connais pas.
Tu peux.
Fois, si t'en connais un, tu fais celui
que le télim, tu peux le faire 1000 fois si t'as envie, c'est pas un problème. Bah, c'est pas grave. Donc, tu vois, je réponds ou pas ? Non ? Si ? Je vais te dire encore plus que ça. Je vais essayer de te... Pour revenir à nous-mêmes, d'accord ? D'où vient la souffrance ? Voilà. Notre souffrance, elle vient d'un manque de connaissance d'Hachem. La connaissance d'Hachem, je ne peux l'acquérir qu'à travers ma Hitbo des doutes. Tu comprends ? Quand je souffre d'une situation, si c'est pour moi ou si c'est par rapport à l'autre, je me dois de me dire, attends, c'est pas normal que je souffre, d'accord ? Donc je fais stop, je vais parler avec Hachem, je vais aller chez Bor Olam, lui dire Ribono Shel Olam, je comprends que si j'ai une souffrance, c'est parce que j'ai un gamme, j'ai un défaut à l'intérieur de moi-même qui fait que je n'arrive pas à me connecter à toi. Tout notre travail, il est là-dedans. Tu comprends ? Ça veut dire que quand, par exemple, une personne, elle ressent une souffrance dans sa vie de tous les jours, au lieu de dire, bah, tu sais, je souffre à cause de celui-là, souvent, nous, les femmes, on dit, je suis très malheureuse à cause de mon mari. D'accord ? Ça veut dire, le mari, des fois, quand tu écoutes, c'est le monstre en personne. Bon. Et tu dis, je suis malheureuse, et il ne fait pas ça, et machin, et compagnie. Bon. Tu peux, mais là encore, d'accord ? C'est-à-dire, tu ne te mets pas face à ta propre réalité, et tu n'essayes pas, justement, d'analyser. J'ai une souffrance, d'accord ? Cette souffrance, elle émane d'abord de moi. Je vais déjà essayer, moi, de régler mon problème, d'accord ? Et certainement, en réglant mon problème, je vais aider l'autre. Maintenant, mes problèmes, ils ne sont pas nés hier matin. C'est pas tu t'es marié et donc tu t'es retrouvé avec un mari qui te fait du mal. Parce que d'abord, ton mari cherche pas à te faire du mal. Ton mari, c'est ton ami. C'est, souvent, les douleurs, elles viennent parce qu'il y a un manque de compréhension. Il y a un manque de communication. D'accord ? On ne se comprend pas. Donc, à partir du moment où... À partir du moment où... Qu'est-ce que je disais ? Et avant ça ? Ah voilà, à partir du moment où tu penses que ton ennemi, ton mari, c'est ton ennemi, d'accord ? Et que donc ça va te causer une souffrance, tu dois te dire, attends deux secondes, d'où ça vient ça dans ma tête ? Que j'en suis arrivée à croire que mon mari, l'homme que j'aime, ou en tout cas que j'ai aimé à la base, l'homme, hein ?
C'est à moitié.
C'est à moitié. Bon, Nagit, que tu as oublié tout ça, d'accord ? Tu n'es plus dans les sphères de la moitié, tu es dans les sphères que tu as envie de te suicider. Donc, ton mari, d'accord ? C'est...
C'est vraiment comme ça, le mari.
Tu es mariée ? T'inquiète pas, ça va venir. Donc... tu vois, on est quand même là, souriante, vaillante, mais nous aussi.
Alors,
qu'est-ce que tu crois? Mais grâce à Dieu, jusqu'à 120 ans. Donc, à partir du moment, si tu veux, où, d'accord, j'ai cette chose où je me dis, mon mari, je ne supporte plus, etc., je dois me dire pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment c'est possible que j'en suis arrivée à un tel état de dégradation personnelle ? Cet homme, j'arrive, cet homme avec qui je suis passée sous la roupa, consentante, heureuse, prends ton album de mariage, d'accord, t'étais quand même souriante. C'était sympathique, tu t'es investi, d'accord ? Qu'est-ce qui s'est passé en quelques années pour que le sourire se transforme en un visage dépressif, où tu as grossi de 15 kilos, où tu as perdu les 15 kilos qui te restaient ? Qu'est-ce qui se passe, tu vois ? C'est-à-dire, tout ça, si tu cherches bien, ça vient de ton enfance. Va rechercher dans ton enfance. C'est pas ton mari. C'est juste que... Hein ? Pourquoi ça serait de sa faute ? Non, de ton enfance à toi.
Pourquoi ?
Non. Non. Je te dis...
Je peux tomber sur un fou.
Non, je vais t'expliquer quelque chose. Un fou, c'est... Attends, il y a une différence. Non, regarde, je vais t'expliquer quelque chose. Bon. Alors... Attends, j'arrive. Bon, alors, je vais, on va essayer de développer. Comment tu t'appelles ?
Corinne.
Corinne ? Aurélie. On va essayer d'aider Aurélie, d'accord ? Pas qu'elle d'ailleurs, c'est tout le monde. D'abord, écoute-moi une chose Aurélie, et écoutez-moi toutes les copines, parce que c'est une information très importante que je vais vous faire passer. Ça n'existe pas une personne méchante. Je l'ai dit, je le redis, je signe, je maintiens, je persiste, tout ce que tu veux. Une personne méchante, ça n'existe pas. C'est une personne qui souffre et sa souffrance, d'accord ? Va, Sa souffrance, si tu veux, va générer certaines actions. Tu comprends? Bon. Donc.
Mais
c'est comme toi, dis-moi, je te pose une question. Quand tu hurles comme une folle sur tes gosses et ton mari.
Et Dieu bénisse combien ça arrive.
Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va dire? C'est une méchante celle-là? Non! T'es pas une fille méchante! Mais non, tu es une fille qui souffre! D'accord, parce que ici c'est comme ça, mais je te parle maintenant, toi, t'es pas une fille méchante à la base. Non, c'est juste que quand tu es en situation, d'accord, où tu cries et tu hurles, tu as perdu, d'accord, ton équilibre mental. C'est tout, exactement, ça veut dire que tu as un problème de midote, tout simplement. Tu comprends? Ça n'existe pas. Alors maintenant, tu me dis... attention, rien ne justifie de lever les mains, hein, ça c'est sûr. Mais encore une fois, oui, c'est peut-être que ça. Mais encore une fois, le mari qui s'attrape la crise, ça va, Batia? Le mari qui s'attrape la crise sur sa femme, et disons-le aussi, parce qu'il y en a marre de toujours dire le mari, la femme qui attrape la crise sur son mari, ça arrive, d'accord? Mais c'est juste parce que on a un sentiment d'incompréhension. Et quand je me sens incomprise, ça me fait souffrir.
Mais ça, je suis d'accord, et je pense qu'on se retrouve tous là-dedans.
Oui, bien sûr.
Un coup de fatigue, un coup de nerf, un coup de... Un matin, oui, oui, c'est bien, on vient bien calme le matin, on est un petit peu moins étendu. Ça s'appelle normal, quand on est tout comme ça. Je parle de juste, parfois, j'ai tout compris.
Bon, ne vous faites pas perturber par la nourriture. Je les vois là-bas, elles sont comme des folles. Oui, donc...
Non, mais...
Tu es confronté à une réelle méchanceté. Alors viens, on change le mot. Regarde, regarde. Les copines. T'es pas méchante? Oui. Je suis. Regarde. Mais qui ne l'est pas? Je vais te dire pourquoi. T'es ref. Bon. C'est quoi ton nom, toi?
C'est Déborah Banoun.
Déborah. Déborah quoi?
Déborah Banoun.
Banoun. Déborah. Regarde, la cousine de Audrey Zévi, 2 minutes. Elle est en rébellion. C'est pas grave, c'est parce que tu viens d'arriver, tu connais pas encore Yaël. Donc, regarde, écoute Débo. Quand maintenant, venez, on se met en situation, d'accord? Maintenant, on est le matin, le soir, chacune va choisir son moment, d'accord, où elle est la plus moche du monde. Ça veut dire elle est en crise, elle hurle, elle mange comme 15, elle est... d'accord? Non mais, Batsheva, moi maintenant je te dis, viens, on parle de nous, 2 secondes. Tu vas voir que pourquoi je parle de nous, d'accord? Donc, quand tu es moche, grosse, tu sens mauvais, t'as pas pris ta douche, ça fait 2 jours parce que t'es en dépresse. Ça veut dire les cheveux gras. Enfin bon, bref, t'es à jeter à la poubelle. Bon. Et donc... Attends. Ça arrive, Alison.
De la peine pour elle, même si elle existe.
Et de la peine pour toi aussi. Et donc, voilà. On est donc chacune dans notre situation, d'accord, d'extrême souffrance. Parce que c'est une souffrance, d'accord, quand on est comme ça. Comment on est? Donc on peut crier, s'énerver, tu vois, tout ce que tu veux. Bon. Comment tu voudrais qu'on te juge?
Je ne juge pas.
Non, c'est comme ça, c'est humain. Viens pas me faire de trucs. C'est humain. Comment tu veux qu'on te juge à ce moment-là? Ton mari. Elle est belle malgré tout. Tu sais quoi? Hello, hello, tu peux m'ouvrir la tefila sur le kaas dans le sourd, s'il te plaît? Alors regarde, je vais t'expliquer quelque chose. D'abord, il y a deux types de personnes. Il y a le nerveux normal et le nerveux plus. Bon. C'est comme tu dirais, il y a les Ashkenazim. Tu as les Sfaradim. Tu dois être un peu Ashkenaz dans ton genre, peut-être. Donc tu ne dois pas comprendre le sang bouillant du Tunisien ou du Marocain. Donc, une personne, en général, d'accord, quand elle est nerveuse, ça veut dire que elle a atteint un point, tu vois, de grande souffrance. Parce que tu as des gens, par exemple, ils prennent sur eux. Tu prends sur toi, tu dis non, je laisse passer, je laisse couler, je laisse machin, nana. Et à un moment donné, ça a dépassé le seuil de tolérable chez toi. On se reconnaît toutes. Et là, c'est fini. Tu ne t'appelles plus Françoise, tu t'appelles démon. Ça veut dire, c'est fini. Tu comprends ce que je veux te dire ? Maintenant, je voudrais te lire juste pour nous toutes, d'accord ? Une tfila qui n'est pas très longue. C'est une tfila pour échapper à la colère. Et vous allez voir que on va toutes, d'accord, se reconnaître ici. Tout le monde est là ? En français, je te la lis, bien sûr, je ne vais pas te la lire. Je ne vais pas te la lire en anglais.
Surtout pas.
Nous ne sommes pas anglophones. Ok. Regarde ça, écoute ça, Rebecca. Maître du monde, toi qui es le bien absolu et qui es le prodige à toutes tes créatures, et qui le prodigue à toutes tes créatures, aie pitié de moi et enseigne-moi les voies de ta bonté afin que je puisse mériter de m'imprégner de tes saintes vertus en étant toujours bon à l'égard de chacun. Que je puisse briser et réduire à néant jusqu'à ce que rien n'en subsiste en mon cœur, tout sentiment de colère ou de rigueur vis-à-vis d'autrui. À chaque fois que mon penchant au mal, pas moi, à chaque fois que mon penchant au mal m'incite à la colère, à Dieu ne plaise, que je sois pénétré de l'idée et que j'y croie d'une foi absolue, qu'à cet instant précis, une profusion de grandes richesses est sur le point de m'être accordée pour m'empêcher de recevoir, et pour m'empêcher de recevoir cette richesse et meurtrir mon âme, le penchant au mal me pousse à céder à cet accès de colère. Donc ici, qu'est-ce que je comprends ? Je comprends que d'abord, ça ne m'appartient pas et que, en général, d'accord, on va voir dans quelques minutes, la colère, elle est destructrice. Avant, et souvent, avant de recevoir quelque chose, d'accord ? Bien sûr, attends, tu vas voir, tu vas comprendre. Quand tu dois recevoir quelque chose de grand, une richesse, que ce soit matériel ou spirituel, d'accord, automatiquement, tu dois être d'abord éprouvé. Éprouvé. En général, quand tu dois recevoir une grande richesse, un grand cadeau spirituel, matériel, d'accord, tu dois être éprouvé avant. Et donc, le penchant au mal va t'inciter, d'accord, à rentrer de la colère en toi. Pour justement, d'accord, en fin de compte, après, te pousser au mal et céder à cet accès de colère. Pourquoi ? Pour meurtrir ton âme. Parce qu'après, quand tu es en colère, si tu réfléchis bien, d'accord ? Comment t'es ? T'es mal. T'es très mal. Tu te sens, mais vidé. Tu n'es plus toi-même. Parce que, c'est-à-dire, tu te dis, mais comment ? Comment j'ai pu ? Parce que c'était pas toi. Tu comprends ? Il te le dit bien ici. Il te dit, chaque fois que mon penchant au mal m'incite à la colère, c'est pas moi, tu comprends ?
À rentrer la colère en moi ou à l'exprimer ?
À l'exprimer, c'est-à-dire tu as rentré en toi une colère et ensuite tu l'as sortie. Attends, donne-moi le mérite de pouvoir vaincre et briser et annuler en moi tout sentiment de colère et de métamorphoser la colère en miséricorde. Cette colère en général, d'accord, tu vas la la cultiver aussi parce que tu es spécialisée, d'accord, en, on va dire, dans le fait de cultiver la culpabilité. La culpabilité que tu vas, d'accord, tous les jours développer en toi, qui va, on va dire, générer de la colère. Et cette colère, ben, elle est là. Et puis, dès qu'il va y avoir un petit truc de la part de personnes en face de toi, ça va exploser. D'accord ? Attends. Ainsi, pourrais-je mériter la richesse de sainteté qui constitue la racine des âmes en enlevant toute force à mon penchant au mal de porter atteint au flux de richesse par l'intermédiaire de la colère et l'irascibilité, Dieu garde. Puissions-nous mériter au contraire de voir se dresser le rempart de la richesse, comme il est écrit, la fortune est une place forte pour le riche, un haut rempart contre les illusions. Le rempart de la richesse nous protégera de toute forme de colère. Quand on parle de richesse, ce n'est pas d'argent, hein. On parle du dat, de la richesse, d'accord, de la connaissance, d'accord ? Elle qui est semblable à une ville ouverte démunie de murailles, comme le dit le verset, une ville ouverte sans rempart, tel est l'homme dont la colère ne connaît pas de frein. Maître du monde, écoutez bien maintenant, tu sais combien de pertes j'ai subies à cause de la colère. Tu comprends la souffrance que c'est la colère ? C'est terrible. Et combien d'âmes ? Et combien de richesses sacrées j'ai perdues, et à combien de monde j'ai porté préjudice en raison de cela. Tu te rends compte la colère, ce que c'est? Tu as perdu, ça veut dire, tu as perdu des âmes, tu as porté préjudice à des mondes entiers. Tu ne te rends pas compte ce que tu as fait. Si tu es consciente de ça, tu ne te mets pas en colère, parce que tu te dis, mais attends, c'est pas seulement moi, mon mari, mes gosses, c'est des mondes entiers là. Maître du monde, ô maître du monde, à cause de la confusion dans laquelle mon esprit est plongé, c'est-à-dire que là maintenant, pourquoi ? Parce que j'ai développé, d'accord, un dimion. J'ai développé, ça veut dire des idées imaginaires. Mon mari, il est méchant, mon mari me veut du mal, mon gosse, il est terrible, et j'arrive pas, et moi-même, je suis pas quelqu'un de bien. Tu vois, ça veut dire que tu développes du négatif. Donc, automatiquement, tu crées une confusion dans ton esprit. Dans laquelle, donc, à cause de la confusion dans laquelle mon esprit est plongé, les occasions où je cède à la colère et à la rigueur sont si nombreuses que j'en ai le cœur aigri et déformé. C'est-à-dire, c'est cette colère, alors tu sais quoi, c'est vrai, elle a détruit les gens autour de moi. Mais la première personne que ça détruit, et qui reste détruite au fur et à mesure, parce que ça crée des séquelles en toi, c'est toi-même. Ta colère te détruit à petit feu. Ça détruit ta personne. Chaque fois que tu te mets en colère, tu crées, d'accord, des défauts en toi, c'est-à-dire des gammes. Tu crées, ça veut dire des j'aime pas, défauts, c'est pas, des dégâts. Tu crées des dégâts, comme si tu dis, tu sais quoi, tu t'es gratigné, tu t'es mutilé, tu t'es... C'est ça, ça te déforme, ça t'aigrit le cœur. Il me perturbe tant que je ne sais plus trop que faire pour m'en libérer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au début tu t'énerves, mais bon, tu vois, c'est encore gérable. Mais à un moment donné, tu deviens esclave de ta colère. C'est-à-dire que tu es complètement prise, d'accord, dans un tourbillon. Tu vis dans une colère permanente sans t'en rendre compte. Et ça, c'est terrible. Parce que jusqu'à ce que tu vas prendre conscience que tu deviens une véritable esclave. Des fois, tu as cette sensation, c'est sûrement quelqu'un te dit, tu es comme un petit, comme ça. C'est-à-dire, à peine on te dit un mot, tlac, tout de suite, tu dégaines en 2 secondes. La personne en face de toi, elle dit, qu'est-ce qu'elle a, celle-là ? C'est parce que tu es esclave de ta colère. C'est fini, tu n'es plus maître de toi. Tu ne peux même plus penser, tu ne peux plus rien. Tu es fâché contre toi-même de cet état. La nervosité, la colère, bah oui, ça veut dire... Bah si, ça veut dire...
Énervé, il est en général en colère.
Non ?
Non.
Hein ?
C'est pas pareil.
Oui ? C'est-à-dire doucement, doucement, tu t'attrapes la crise, la crise, la crise, et à un moment donné, c'est la colère qui va exploser, tout simplement. Écoute ça. Mes trop nombreuses fautes ont restreint ma conscience. Donc quand maintenant moi, d'accord, je vais dans le courant du monde. Vous vous rappelez ce qu'on a dit au début ? Quand moi je vais dans le courant du monde et que le courant du monde, il veut m'inciter à quoi ? À faire des fautes. Donc, automatiquement, ça restreint ma conscience réfléchit, me rendant même incapable d'ordonner ma prière devant toi pour te supplier de me délivrer de l'emprise de cette faute grave et redoutable qui, comme tu le sais, a causé à de nombreuses personnes la perte de ce monde-ci et du monde à venir, Dieu préserve. Combien de fois on entend des gens dire « j'arrive pas à parler, j'arrive pas à parler à Dieu, j'arrive pas à me libérer. » C'est-à-dire, tu sais quoi, t'es tellement emprisonné, embrigadé, d'accord, dans toutes ces chaînes-là que tu t'es créées, qui sont tes fautes, que tu n'arrives même plus à ouvrir la bouche devant Dieu. Tu n'arrives même plus à parler avec toi-même. Et ça, c'est aller dans le sens du monde, c'est aller dans le courant du monde, parce que ce Olam Hazeh, il veut t'empêcher de te rappeler qu'il y a un Olam Haba.
En fait, et ça... Ça nous arrive ça, de pas... enfin, ça m'est pas arrivé, mais ça, je pense à quelqu'un qui s'est arrivé il n'y a pas longtemps. Et en fait, elle trouvait tellement pas. Elle pensait qu'elle allait s'en sortir elle-même de sa situation. Donc elle prie. Elle dit non, je ne veux plus prier. Ça, j'arrive pas à prier. Je ne peux pas prier. Mais en fait, elle essayait de trouver ses solutions de sortir de sa situation.
Toute seule.
Mais en fait, seule. Mais en fait, il n'y a aucune possibilité de sortir d'une situation.
Elle se retrouve, cette personne qui croit qu'elle va s'en sortir toute seule, elle va être comme le Chacham. Du conte, le tam, du conte, le simple et le chacham, le conte de Rabbi Nachman. Je vous renvoie tout à ce conte. Tu as amené des contes, Batia, ou pas ? Batia, tu as amené des contes ? Ouais. Il y a des livres après, celles qui veulent s'en procurer. Il y a les contes, parmi les contes de Rabbi Nachman, qui sont extraordinaires. Et j'ouvre juste une petite parenthèse pour les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est une grande ségoula, d'accord, de lire les contes de Rabbi Nachman à la Seouda Shlichit. C'est pour les femmes qui ont du mal à avoir des enfants. Je ferme la parenthèse. Donc, parmi les contes, il y en a un qui s'appelle le Chacham et le Tam. Le Chacham, c'est le... Non, le sage et le simple. Le simple qui n'est pas un idiot. Le simple, c'est celui... Le sage, c'est celui-là. C'est celui qui croit toujours... D'accord, qui va s'en sortir seul, qui peut tout seul. Ça veut dire que il s'est séparé de Dieu. Tellement il est devenu intelligent, tellement, d'accord, il s'est rempli de son moi, du ani, qu'il est devenu, il a plus besoin de Dieu. Il va plus croire en Dieu. Et puis il est rempli complètement du ani. Ça veut dire il n'a plus, d'accord, cette notion qu'il a besoin d'Hachem. Donc automatiquement, d'accord, toutes les fautes de c'est-à-dire ce monde-ci, il veut nous déconnecter, d'accord, du Olam Haba, en nous empêchant justement de nous poser pour faire le point avec nous-mêmes, c'est-à-dire faire Ibo des doutes, faire le Cheshbon Nefesh, d'accord. Et donc, automatiquement, je perds, ça veut dire à cause de ces fautes-là, parce que même de ne pas parler avec Hachem, c'est une faute, en réalité. C'est une obligation que j'ai de parler avec Hachem. Qu'est-ce qui... Donc, je perds tout ça. Et il y a marqué comme ça. Que te dire sinon ? Sauve-moi ! Mon Père, mon Maître, mon Roi, mon Dieu, sauve-moi ! Donne-moi le mérite de briser et d'annuler en moi toute forme de colère. Car celui qui résiste à la colère l'emporte sur le héros. Celui qui domine ses passions sur le preneur des villes. Ça, c'est une tfila, d'accord, qui est dans le livre Les Sources du Salut, d'accord, qui est Kolbo Yeshuot, page 280. On vous en a amené là-bas, d'accord. Je sais qu'il y a des femmes, et des hommes d'ailleurs, qui ont pris sur eux de lire cette petite tfila tous les jours. Dans le livre de quoi ?
Non, pour les
Le Kolbo Yeshuot, c'est un livre où il y a des conseils, des citations de Rabbi Nachman. Il y a aussi certaines prières. Il y a des ségoulottes. Il y a le livre de Tehilim. C'est un, on va dire, c'est un, c'est le livre de poche, pas tout à fait, mais bon. C'est un livre obligatoire d'avoir à la maison. Ça veut dire, tu as toutes sortes d'abord de conseils, tu vois, pour voilà, accouchement facile, adoucissement des rigueurs, ce que je sais moi, le mikvé, des délivrances des enfants, ce que tu veux. Tu as le cantique des cantiques, tu as des tfilotes pour le shalom baït, pour les enfants, pour. Tu as aussi la tfila, tu as aussi la leçon numéro 6 du Likutei Moharan, qui est une des leçons essentielles de Rabbi Nachman contre le kavod, contre l'orgueil. D'accord ? Donc, tu as tout ça, d'accord ? Donc, tout ça pour dire quoi ? Que quand tu es, donc pour revenir, Déborah, à ce qu'on disait, à partir du moment, d'accord, où tu rentres dans cet état justement où tu es terrible, c'est plus toi-même quand tu t'en aperçois, comment tu voudrais qu'on te juge ? Avec miséricorde. T'as pas envie qu'on te dise, mais qui c'est cette folle, mais qu'est-ce qu'elle a, elle est complètement dingue. C'est vrai ou pas? Parce que ça te rend encore plus hystérique. De la même manière que tu veux qu'on te juge, Aurélie, avec miséricorde, quand tu es dans un état de crise, tu te dois de juger l'autre aussi avec miséricorde. Parce que quand lui, il est dans la crise, c'est qu'il est en état de souffrance. Or, une personne qui a un genou déjà à terre, c'est pas la peine de l'achever complètement. Tu comprends? C'est un acte de chesed, de bonté que tu fais quand une personne, elle se met en colère, de te dire, attends, je prends du recul. Quel est mon propre travail à moi déjà? C'est, hein? C'est une force. Comment tu vas acquérir cette force? En parlant avec Hachem tous les jours, parce qu'en parlant avec Hachem, tu vas apprendre à prendre du recul. Tu vas apprendre à avoir une vision complètement différente de la vie. Tu comprends le travail? Donc quand maintenant toi tu fais, d'accord, cet effort sur toi-même, cet effort contre ce Olam Hazeh, qu'est-ce qui va t'arriver? Ce Olam Hazeh qui pourrait en réalité être, d'accord, qui a un monde qui est dur à vivre, parce que tu es en déconnexion totale avec Akadosh Baruch Hu, d'accord ? À partir du moment où tu décides d'aller à contre-courant de ce Olam Hazeh, alors automatiquement tu vas avoir un goût du Olam Haba. À partir du moment où tu vas à contre-courant, quand tu es dans ce Olam Hazeh, tu vas pouvoir avoir un goût du Olam Haba. Et on va même pouvoir arriver à être comme Rabbi Nathan, amen, qui avait fait un travail, d'accord, tel que tout lui glissait, il était complètement détaché de ce monde. Il avait dit, mais vous priez pour Mashiach? Moi, je ne prie plus, j'ai déjà reçu mon Mashiach. C'est quoi Mashiach? C'est justement arriver à un état de plénitude, d'accord? Et Rabbi Nachman, avec les conseils qu'il nous donne, quand on s'attache au tzaddik, le tzaddik il nous donne justement tous ces outils pour pouvoir vivre dans ce Olam Hazeh avec un goût de Olam Haba. C'est-à-dire que ce monde-ci va se transformer complètement. Il va m'apprendre à avoir du recul sur la vie. Il va m'apprendre à regarder les gens autour de moi différemment, mais surtout, il va m'apprendre à me regarder moi différemment, avec douceur, avec amour, avec bienveillance, avec rondeur. C'est comme ça, c'est ça les outils que Rabbi Nachman il te donne. Il te donne cette capacité justement à pouvoir vivre ce Olam Hazeh, d'accord, mais en ayant ta tête dans le ciel. Rabbi Israël, il disait, c'est quoi un juif? Il disait, c'est avoir les pieds sur terre, mais la tête dans le ciel. Il n'y a que comme ça qu'on peut faire face, d'accord, à toutes les épreuves de ce Olam Hazeh. J'espère, Bezrat Hashem, juste pour finir, on est le Chodesh qui se lève. On est Yutet qui se lève aujourd'hui, il y a fait. C'est l'Aïloual du Magid de Mezerich, alors, aussi. Et c'est aussi le... Nachon. C'est l'Aïoula de Rabbi Chaï Taïeb. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est un grand soir. Grâce à Dieu, merci à toi, Steph. Donc, d'abord, vraiment, que Dieu te protège et te donne beaucoup de nachat de tes enfants. Et le Chodesh qui se lève, c'est...
Merci à vous, hein, c'est le kiff.
Bon, merci à Dieu de nous avoir réunis dans cette Sina. Merci. Et donc, le Chodesh qui se lève, c'est quoi? C'est le mois du remerciement. Donc, c'est le mois de la lumière, c'est le mois du remerciement. Donc, venez, on va faire un travail, chacune sur nous, pour ce mois-là, en tout cas. On va essayer, Bezrat Hashem, de prendre sur nous, de dire, tu sais quoi? Je vais regarder toutes les bontés d'Hashem et je vais le remercier pour tout ce que j'ai. Je mets de côté mes manques et je vais me remplir de tout ce que j'ai d'abord. On va vraiment, ça veut dire vivre ce mois de Kislev dans le remerciement et la gratitude envers Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous donne. Amen, Kenny Ratson. Merci d'être venu. Prochain, il nous aide. Ton mari.